Je vous propose qu'on commence. Il y a beaucoup de concurrence, je crois qu'il y a quatre sessions en parallèle, donc je vous remercie beaucoup d'être là. J'en déduis que vous êtes accro aux questions de catalogage. Peut-être vous décevoir, ceci n'est pas un cours de catalogage, c'est une tentative que Marianne Clatin et moi-même, Gilles Dassilien, une manière d'entrer dans les questions, peut-être commencer à sortir des questions sur l'avenir du catalogage de manière concrète. Je dirige le département de l'information bibliographique et numérique à la Bibliothèque nationale de France. Ce département, au nom un peu bizarre, c'est le carrefour des métadonnées au sein de la BNF. Et c'est ce que vous connaissez plutôt sous le titre d'Agence biographique nationale, qui se réinvente très régulièrement. Alors, notre propos aujourd'hui, c'est d'une part de vous poser le contexte de l'expérimentation qu'on a conduite cette année, que Marianne vous proposera, présentera essentiellement sous la forme d'une démonstration assez approfondie. Et moi, mon rôle, c'est de placer le contexte de cette expérimentation dans la politique prospective de la BNF en matière d'évolution de ses catalogues, mais aussi de sa réflexion sur la manière dont tout le travail qu'elle conduit en matière de production et diffusion de données bibliographiques peut servir les bibliothèques publiques. Donc, on va parler en trois temps. Je vais vous présenter ce contexte et ses motivations en essayant de s'accrocher au thème du congrès. Donc, penser la diffusion des données biographiques et plus largement la refonte des catalogues dans la perspective avant tout de l'usager, d'un usager citoyen, dont on suppose qu'il est maintenant sur Internet. Ensuite, je vous présenterai un peu plus concrètement, à travers aussi une autre démonstration, celle de databnf.fr, les chantiers que nous conduisons aujourd'hui à la BNF. Et puis, je passerai la parole à Marianne, qui vous fera donc cette présentation d'OpenCat. On gardera du temps pour répondre à vos questions et échanger, notamment si c'est un projet qui vous donne envie d'en savoir plus ou de vous positionner pour d'autres expérimentations pouvant impliquer votre bibliothèque. Je pars du principe que vous êtes bibliothécaire. Une touche de sinistrose pour commencer, mais ça ira mieux après. Je pense que c'est important de poser que la question de l'avenir des catalogues, on peut l'aborder de plein de points de vue, du point de vue des opportunités de mutation technologique, du point de vue du contexte international, mais je pense qu'en termes de gestion, c'est avant tout une question économique qui nous l'amène, parce qu'on ne peut plus, même si on a déjà fait beaucoup de progrès, tous faire la même chose en même temps. Et même à la BNF, il y a des contraintes budgétaires très importantes qui nous conduisent à nous interroger sur où est notre valeur ajoutée, qu'est-ce qu'on peut prioriser dans nos actions et comment chacun peut quelque part valoriser ce qu'il fait de mieux, mais qu'on mette en réseau ses ressources pour créer de la valeur globalement. Et ça paraît un petit peu généraliste comme propos, mais vous comprendrez plus tard qu'en fait, on arrive dans un nouveau paradigme technologique avec le web sémantique qui nous permet vraiment de faire ça, c'est-à-dire lier nos ressources et pas seulement se les envoyer les uns les autres ou les récupérer les uns les autres et les lier directement sur le web. Le deuxième constat, c'est que même si on continue à observer des usages et une fréquentation significative des grands catalogues, notamment celui de la BNF, on voit bien que nos usagers, quand ils cherchent quelque chose, et nous-mêmes, quand on cherche de l'information, notre recherche commence par un moteur de recherche. Donc nos catalogues n'ont plus la cote, c'est un petit peu de la provocation. Mais c'est simplement pour dire qu'on ne peut plus continuer à penser la recherche d'information par l'usager, surtout si on le pense en tant que citoyen qui a besoin d'acquérir de la connaissance, et pas seulement comme le lecteur qui vient déjà dans notre bibliothèque, sous l'angle de l'application catalogue. Nous vivons dans des univers de bibliothèques. Nous avons connu l'informatisation des catalogues, et nous sommes allés arriver jusqu'à ce point où nous avons informatisé un système qui était le système des cartes. Nous avons transplanté de manière informatique un système qui avait été pensé pour la gestion de fichiers. Ce paradigme-là, en fait, il y a un paradoxe, c'est que d'un côté, il atteint sa limite, puisque nos catalogues sont des silos de données qui sont cachés dans le web invisible ou dans le web profond. C'est-à-dire que pour pouvoir atteindre l'information qui s'y trouve, il faut quelque part déjà les connaître. Et en même temps, c'est un hasard, mais c'est un heureux hasard, la manière dont nous avons conçu et structuré l'information dans les fichiers s'avère être un véritable or noir pour la manière dont fonctionne le web, en particulier le web sémantique. Donc d'un côté, on est arrivé au bout d'une logique, de l'autre, on a un capital. Ce capital, ce sont les liens logiques qui après ont été informatisés, qu'on a créés à l'intérieur des notices, en particulier les liens entre les notices bibliographiques et les notices d'autorité. Et la communauté des bibliothécaires qui très tôt s'est normalisée a appris à échanger à travers des standards, à travers des systèmes, eh bien, cette communauté, elle a peut-être une carte à jouer pour exister sur le web comme elle n'a jamais existé et y apporter quelque chose qui est vraiment une grande richesse pour rendre le web plus intelligent, plus structuré. Donc c'est le pari que nous faisons. De son côté, le citoyen ou l'internaute, vous le connaissez, quelque part vous êtes lui aussi. Je le disais tout à l'heure, son premier réflexe pour accéder à l'information, il est d'aller sur le moteur de recherche. Là où je voudrais attirer votre attention, parce que c'est important pour la suite, cet usager, c'est un humain, mais il y a beaucoup d'intermédiaires qui nous font penser que cet usager, c'est aussi un robot. C'est-à-dire que les gens peuvent atterrir sur des ressources de bibliothèque en allant directement sur leur site, mais l'objectif, c'est que ces ressources, au niveau de la donnée, remontent parce qu'elles ont été moissonnées, enrichies, disséminées par d'autres acteurs qui ne sont pas des acteurs des bibliothèques. Et donc, nous devons être capables de faire parler nos données aussi bien à cet usager humain qu'aux robots, aux machines, qui vont retraiter cette information. Encore faut-il qu'elle soit ouverte et disponible, aussi bien techniquement que juridiquement. En résumé, très brève histoire de nos catalogues, ou en tout cas de la perception du web par rapport aux bibliothécaires et sa conception du catalogue. À la naissance du web, lorsqu'il est apparu, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, il y avait beaucoup de défiance à l'égard de l'Internet. On avait l'impression que c'était la guerre entre le catalogue et le web. C'était l'un contre l'autre. Manifestement, nous avons perdu. Et donc, on est arrivé à cette deuxième étape où on a voulu mettre le catalogue sur le web. Et aujourd'hui, la plupart, l'immense majorité des catalogues sont accessibles sur Internet et les bibliothèques ont un site Internet. Mais on voit bien qu'on arrive, comme je le disais, à la fin de ce modèle, c'est-à-dire que ça ne suffit pas d'avoir une présence sur le web au niveau de l'application catalogue ou du service catalogue. Il faut aller plus loin au niveau de la donnée. Et c'est là qu'on rentre dans ce discours que vous entendez par tous les bouts, où on parle de data. On ne parle plus de notices bibliographiques, on parle de données, on parle de data, de big data, de linked data, d'open data. Donc ma présentation vise aussi à mettre un petit peu de contexte autour de ça et de savoir plus précisément de quoi on parle lorsqu'on parle en l'occurrence du linked open data, c'est-à-dire les données liées et ouvertes. Donc à la BNF, nous faisons le pari pour l'avenir que précisément il faudrait réussir à ouvrir et mettre à disposition nos données bibliographiques là où se trouve l'usager, c'est-à-dire dans le web. Et que le web de données ou le web sémantique nous apporte des standards qui va nous permettre d'exprimer et de traduire cette information bibliographique dans un vocabulaire selon des formats qui ne sont plus propres aux bibliothèques, comme l'étaient les formats marques, comme le sont les formats marques, mais qui sont des langages et des modèles de données qui sont ceux de tout le monde sur le web pour que justement ils puissent être largement réutilisés et du coup toucher beaucoup plus de monde que nos simples usagers habituels. Quand j'essaye de résumer les motivations de cette politique, et pour un peu compacter ce que je viens de dire avec quelques mots précis, le premier objectif, c'est d'être plus visible, donc d'être référencé par les moteurs de recherche. Plus de 50% des trafics sur les sites web vient des moteurs. Et donc l'objectif, c'est que les données de bibliothèque soient tout aussi visibles que d'autres, voire davantage du fait de leur structuration pour l'usager. La deuxième raison, qui est une raison d'abord domestique, j'allais dire, pour la Bibliothèque nationale, c'est d'être plus cohérent. Nous avons de plus en plus à faire cohabiter des silos ou des réservoirs de données, de structures, d'usages aussi, et de provenances qui sont différentes. Un exemple, pour la BNF, nous voyons coexister des données bibliographiques au format marque et des données archivistiques au format EAD. Mais la liste serait longue, on pourrait lister beaucoup d'autres ressources, notamment les ressources électroniques, des objets qui sont des véritables ovnis pour les bibliothèques, par exemple les archives de l'Internet qu'on commence à emmagasiner dans des bibliothèques comme la BNF. Donc on voit bien qu'on a des tas de silos de ressources qui ne sont pas fichus pareils et qu'il faut fédérer ou agréger. Et comme l'objectif du web sémantique, c'est précisément de lier des choses différentes avec un minimum de complexité sur le lien entre ces ensembles, on va essayer de les ramener ensemble sans forcément les mettre dans le même réservoir. Des réservoirs aux structures différentes peuvent cohabiter et chacun rester dans leur logique. L'idée, c'est de créer une colle, un lien, un ciment entre tout ça au plus près de l'usager. Motivation économique, je l'évoquais, c'est être économe et à la fois généreux. On observe que l'économie des données, notamment des données bibliographiques, évolue extrêmement vite. OCLC lui-même en a pris acte, qui a décidé d'adopter une licence ouverte avec attribution pour ces données. Ça veut dire que ce modèle où on vend des données bibliographiques est en train de disparaître progressivement au profit d'un modèle où la donnée biographique doit circuler parce qu'elle-même est vecteur d'usage, d'audience. Plus elle sera libre, plus elle sera visible, plus elle circulera, plus les ressources qui sont associées seront vues. Et c'est ça qui va générer de la valeur. La notion de confiance est très importante sur ce marché. Des données, il y en a partout sur Internet. Et justement, la question, c'est comment la bibliothèque, les bibliothèques, peuvent mettre en avant le fait que ce sont des tiers, des opérateurs de confiance dans cette espèce de jungle de la donnée, en apportant de la structure et en apportant une sorte de certificat de qualité autour de ces données. Et finalement, dans cette jungle, eh bien, je le disais, on va essayer de mettre en avant ce à quoi on est le meilleur, parce qu'économiquement, on ne peut plus tout faire. Donc, même la BNF n'a plus la prétention de tout cataloguer, même si on s'efforce au niveau du dépôt légal et de la bibliographie nationale de continuer cette mission extrêmement lourde et ancienne. Lorsqu'on a vu le dépôt légal s'étendre à l'Internet, on a bien compris qu'on ne pouvait plus tout collecter, qu'on ne pouvait plus tout signaler. Donc ce mythe et ce rêve de tout avoir n'est plus possible, n'est plus tenable. Et donc il va falloir raisonner autrement. Finalement, être plus utile, c'est cette idée de promouvoir au maximum les réutilisations dans et hors les bibliothèques. Pour la BNF, ça signifie qu'il y a une mission fondamentale qu'elle doit conserver, qu'elle doit faire évoluer, c'est produire des référentiels nationaux qui vont servir d'ossature à l'ensemble des acteurs de l'information. Et que ces référentiels doivent être vraiment des référentiels incontestables qui maintiennent ce niveau de qualité pour qu'on puisse s'appuyer dessus presque aveuglément. Notre stratégie par rapport au débat que vous connaissez certainement sur l'évolution des codes de catalogage, c'est de rester prudent par rapport aux évolutions qui se dessinent, c'est-à-dire que nous travaillons activement au suivi du chantier RDA. La pratique et les débuts d'implémentation qu'on observe, notamment dans les pays qui viennent de la tradition anglo-saxonne de catalogage, nous paraissent un peu compliqués parce qu'en fait, les adopter en l'état constituerait une régression par rapport à beaucoup de nos pratiques. Et en même temps, il y a un fort désir d'arrêter d'être spécifique et de s'inscrire vraiment dans ce mouvement d'interopérabilité internationale. Donc, on n'envisage pas de révolution à 3 ans au niveau de la production parce qu'on comprend aussi que si on devait appliquer en l'état la réforme, eh bien, on n'aurait pas assez de bénéfices et le changement coûterait trop cher par rapport à ce qu'il nous rapporterait. Donc d'un côté, on essaye de négocier au niveau international l'évolution du code RDA et plus globalement des dispositifs d'implémentation du RDF pour les données bibliographiques. Et de l'autre, le raisonnement qu'on fait, c'est que qui en France, par rapport à des sujets aussi complexes, au niveau des décideurs, au niveau de ceux qui payent, serait prêt à investir simplement si on lui dit qu'il faut changer de code de catalogage. Ce n'est pas un argument. Donc il faut pouvoir montrer quel service concrètement, quel changement positif pour les usagers, ce type de transformation de la présentation des données biographiques peut apporter. Donc beaucoup plus investir sur des logiques de diffusion, sur des logiques de démonstration que pour l'instant sur la production. Donc c'est vraiment ce qu'on vous présente aujourd'hui avec Marianne. Je ne fais pas un cours sur les FRBR ni sur RDA, ce n'est pas l'objet de ma présentation. C'était juste que vous ayez en tête ces mots-clés, ces barbarismes qui nous poursuivent pour tous ceux qui suivent les questions de catalogage et qu'on pose simplement ces fondamentaux. L'idée de regrouper les données bibliographiques en fonction du modèle œuvre des FRBR, qui correspond davantage à la logique d'un usager internet qui cherche non pas un document précis, mais des choses, des gens, des œuvres. Implémenter ce modèle en regardant du coup et en implémentant à terme le code de catalogage RDA. J'insiste sur un point souvent oublié parce qu'il est présenté comme quelque chose de technique, en fait il est essentiel, c'est le fait que chaque ressource sur Internet dans cette économie-là doit avoir un identifiant univoque et pérenne qui se traduise par une URL concrètement. Le langage dont je vais beaucoup vous parler, dont vous parlera Marianne aussi, qui est la base du modèle de données pour transformer du MARC en web sémantique, pour faire simple, CRDF. Et finalement, le soubassement de tout ça qui doit continuer à constituer une activité très importante pour les agences bibliographiques et pour les catalogueurs, c'est maintenir des référentiels d'autorité où justement ces choses, ces œuvres, ces personnes continueront d'être décrites et actualisées en fonction de l'évolution de la production éditoriale. Petit clin d'œil pour les vrais catalogueurs, ça veut dire que pour préparer cet avenir, les points sur lesquels on doit être attentif, c'est ne pas brader ce que nous avons dans nos catalogues, et en particulier les liens qui existent, parce que c'est ça, et en particulier les liens entre notices bibliographiques et notices d'autorité, qui fait notre avantage compétitif, notamment par rapport aux Américains, qui historiquement ont toujours eu deux fichiers séparés entre les biblios et les autorités, ce qui n'est pas notre cas, donc là-dessus on a en fait une avance qu'il ne faut pas perdre. La deuxième chose, c'est que pour maintenir ces référentiels, on va certainement voir évoluer l'activité de catalogage, une activité où on décrit un document, à une activité où on va davantage analyser ce qu'il y a dedans et raccrocher cette analyse à des référentiels existants. Les Américains parlent d'un passage du cataloging au catalinking, c'est cette notion où on va vraiment voir dans des entrepôts de connaissances existants à quoi l'objet se raccroche et créer ses liens. Ce qui est en soi beaucoup plus valorisant pour le catalogueur, puisque c'est l'activité d'indexation qui va être mise en avant par rapport à l'activité de pure description, de reproduction du contenu de l'ouvrage sur une fiche de catalogage. Et donc, je vous l'ai dit, n'oubliez pas les identifiants. Pour ceux qui récupèrent des produits biographiques de la BNF, on en a vu plein qui suppriment ces identifiants parce que ça ne fait pas très joli sur leur notice. Vous pouvez les cacher. Vous n'avez pas besoin de les afficher et c'est très important de les conserver pour que justement demain vous puissiez réutiliser des services ou des données qui sont associées à ces données bibliographiques. Dernier point très important de contexte, cette fois-ci c'est plutôt les principes d'ouverture juridique des données. Là je vous ai parlé plutôt des principes d'ouverture technique. C'est quelle licence on attribue aux données bibliographiques. Donc c'est un débat assez sérieux en France actuellement. Les expérimentations qu'on va vous présenter sont basées sur data.bnf.fr que je vais vous présenter un tout petit peu après. Et donc je voulais simplement vous dire la démarche que la BNF a faite d'un point de vue juridique pour les données en RDF qui sont issues de cette application. On a choisi la licence ouverte de l'État. C'est une licence en fait qui permet la réutilisation, y compris commerciale, des données, mais avec obligation de l'attribution de sources. C'est uniquement pour les données en RDF qui sont dans databnf.fr que cette licence s'applique, puisque pour les produits bibliographiques en marque, actuellement, nous sommes toujours sur une politique où, en cas de réutilisation commerciale de ces données, il y a paiement d'une redevance. Pour les bibliothèques publiques, tout ça ne fait pas une grande différence, puisque, de toute façon, en tant qu'établissement public, vous pouvez bénéficier de la gratuité des produits bibliographiques, y compris en marque. Mais ce point est un point extrêmement important, parce que si vous voulez une réutilisation des données, une dissémination des données sur le web, bien beaucoup de développeurs ne voudront pas de données si elles sont protégées, si elles n'ont pas le droit explicite de les réutiliser. Donc j'en viens à Data qui va quelque part introduire la présentation de Marianne sur OpenCat. Data, concrètement, c'est un marché qui a commencé en 2009. C'est un marché public qu'on conduit avec une société qui s'appelle Logilab, qui est une société assez sympathique avec laquelle on a pu vraiment mettre en place une méthode de développement agile, c'est-à-dire une méthode où il y a de fréquentes itérations quotidiennes en fait, entre les utilisateurs, les professionnels métiers, conservateurs de biotech et le codeur. Donc on crée, et c'est aussi comme ça que fonctionne le développement de Gallica ou d'autres projets de la BNF de plus en plus. On commence à créer aussi d'un point de vue métier une osmose grandissante entre l'informatique, le bibliothécaire et la manière de conduire un projet. Donc c'est pour ça que Data évolue de manière parfois un petit peu imprévisible. On n'a pas un plan colcosien avec une vision de ce que sera Data dans 3 ans et des étapes extrêmement marquées. On avance en apprenant aussi ce que les usagers nous disent sur l'application. Le logiciel qui est derrière est un logiciel libre qui s'appelle Cubic Web. Si vous avez un bon service informatique, vous pouvez inviter à le regarder, même si évidemment c'est un ensemble de techno qui est un peu nouveau. Et en soi, c'est une application telle que vous pouvez la voir en tant qu'être humain qui va sur Internet. Mais plus largement, en fait, c'est un chantier. C'est une fabrique. Sous Data, ce sont des mécanismes de transformation, ce sont des algorithmes qui vont modifier et aligner les données. Et globalement, ces processus vont servir à beaucoup d'autres projets pour la FRBérisation des données de la BNF et de ses partenaires. Donc aujourd'hui, après avoir lancé ce qu'on appelait une preuve de concept, on n'était pas du tout sûr que ça marcherait, on n'était pas du tout sûr que aussi nos décideurs nous suivraient sur ce projet. On a atteint un certain nombre de résultats qu'il faut qu'on a passé le test et on parle maintenant d'un service. À la BNF, c'est un projet qui suscite beaucoup d'enthousiasme, qui fédère beaucoup de gens et donc près de 20% des données de nos catalogues sont maintenant présentes dans Data BNF. Qu'est-ce que c'est finalement que cette OVNI ? Eh bien d'abord, c'est une espèce de hub finalement de données. On est parti du constat que pour quelqu'un qui s'intéressait aux ressources de la BNF, il y avait un problème fondamental, c'est que c'était très compliqué, sinon en passant par le catalogue collectif de France, déjà, depuis la même recherche, requêter ce qui était dans ses archives et ses manuscrits en EAD, ou dans son catalogue général en marque. Et puis, on a aussi constaté que Gallica, grandissant par son volume et par aussi les différents modes de contribution à l'intérieur de la bibliothèque numérique, il n'était pas toujours simple de retrouver directement depuis Internet des ressources qui avaient été numérisées. Donc, l'idée de Data, c'est d'aller piocher dans ces réservoirs et en appliquant le modèle FRBR, de permettre à l'usager de manière très transparente de voir remonter toutes ces ressources issues de ces différents réservoirs tout en les laissant chacune à leur place. Donc il agit finalement comme un hub ou un guide dans les ressources de la BNF directement depuis le web. L'autre intérêt, c'est qu'il nous permet quelque part, à nous BNF, de nous rassembler avec nous-mêmes, de fédérer nos ressources, mais nous permet aussi de dialoguer avec d'autres ressources. Donc par exemple le SUDOC, c'est un point de contact très important et de coopération avec l'enseignement supérieur, mais aussi WorldCat, mais aussi Wikipédia ou d'autres catalogues potentiellement. Donc ce dispositif à qui il s'adresse, ben, je vous le disais, c'est à la fois des pages web pour chacun de ses concepts, ses œuvres, ses auteurs, ses sujets, tout rameau est dans Data. Et par ailleurs, ça s'adresse à des machines qui peuvent donc récupérer des dumps de données en RDF. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors je vais aller en ligne. J'y arrive. Donc je vais faire quelques exemples rapides et puis je pense que vous le connaissez peut-être déjà, vous irez le voir ailleurs. Juste pour illustrer avec 3 exemples ce que je viens de vous expliquer de manière concrète. Première chose, le référencement. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que nous avons commencé à charger dans databnf.fr, c'est d'abord un corpus qui correspondrait en gros à ce qu'il y avait dans la gare des Michards, et puis on a tiré la pelote pour essayer de prendre des données qui étaient avant tout des données de qualité et de jouer sur la longue traîne. C'est-à-dire on a pensé par rapport aux logiques, aux stratégies de recherche des moteurs de recherche. Si vous tapez Victor Hugo dans Google, vous ne tomberez pas en premier sur des pages de databnf.fr, parce qu'il y a une grosse concurrence d'informations sur Victor Hugo. Par contre, l'idée, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, être bon là où on a une valeur ajoutée propre, c'est de taper dans ce qu'on appelle la longue traîne et de voir que sur des ressources rares, eh bien, nous nous dégageons en première ligne comme étant des opérateurs d'information. Donc si on pense à Alexandre Dumas, mais qu'on pense à une œuvre pas très connue d'Alexandre Dumas qui s'appelle « Mémoire d'un médecin ». Voilà, il est là. Pourquoi il ne veut pas ? La souris ne marche plus trop. D'accord, on va faire comme ça. Donc là, j'arrive en deuxième position, juste derrière Wikipédia. Et j'arrive sur une page de data BNF. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Je vous montre simplement que depuis cette page, vous allez à la fois retrouver des informations concernant cette œuvre qui vont vous renvoyer vers le catalogue de la BNF. Vous allez pouvoir faire tout un tas de choses, imprimer, exporter, signaler un problème, bien sûr, mais faire le lien entre cette ressource et la manière dont on va la retrouver dans Gallica, dans le catalogue général, dans d'autres catalogues de la BNF ou des catalogues extérieurs. Je vais prendre un autre exemple. Je vais partir de ça. Bon, en fait, voilà, tac. En ce moment, sur la page d'accueil, on met en avant, cette fois, non pas une œuvre, mais un auteur, Théophile Gautier. Et je voudrais juste vous montrer, pour ceux d'entre vous qui ont la pratique du catalogage et qui s'embêtent avec tous les codes fonctions qui permettent de dire quelle est la nature de contribution d'un auteur, eh bien, dans le cas de Théophile Gautier, qui a fait des tas de choses très différentes dans sa vie, alors on va voir en avant les œuvres les plus étudiées, c'est celles qui vont remonter en premier, c'est-à-dire œuvres citées par ou sur lesquelles quelque chose a été écrit. Mais en fait, vous voyez, en fait, il a fait vraiment plein de choses, Théophile Gautier. Donc vous allez retrouver tous vos codes fonctions qui, à ce stade, ne sont peut-être pas très explicites pour un grand public, donc c'est quelque chose qu'il faut travailler, mais qui vont nous permettre de retrouver, en tant qu'auteur du texte, auteur adapté, parolier, préfacier. Et en fait, cette manière d'approcher l'auteur va nous permettre de mettre en valeur des collections spécialisées, en fait, ou des documents d'archives qui sinon seraient noyés dans une masse. Donc c'est une application du modèle FRBR pour la navigation dans l'information. Et un dernier petit point, un dernier exemple. On a vraiment aussi dans Data une approche très intéressante autour des sujets, et notamment des lieux qui sont des sujets. Donc si je tape Lyon dans le petit moteur qui est dans Data, en faisant un test, je suis tombé sur l'Olympique lyonnais. Voilà. Donc c'est aussi pour dire, dans une perspective de lecture publique, que même si on est sur cette notion de longue traîne, la longue traîne, ce n'est pas forcément des documents très juridiques ou très patrimoniaux, vous allez retrouver des choses rares, mais qui peuvent parler à un plus large public. Donc sur l'OL, typiquement, j'ai découvert qu'à la BNF, on avait quand même 35 documents qui parlaient de l'Olympique lyonnais. Je vous laisserai les découvrir. Alors, suis-je ? Voilà, donc à ce stade, après finalement 2 ans d'existence, le projet Data, c'est 20%, on est en train de passer à 30% des notices qui ont été transformées. 70 000 visiteurs uniques par mois, ce n'est pas considérable, mais c'est pas mal par rapport à la jeunesse de l'application. 2 chiffres qui sont beaucoup plus intéressants. D'abord, c'est que 80% des visites viennent de moteurs de recherche. Donc on a bien atteint notre objectif, c'est-à-dire que notre usager ne nous connaît pas, connaît pas la BNF, mais il nous trouve depuis une recherche sur un moteur. Et aussi, très encourageant, 50 à 70% de taux de conversion depuis Data vers d'autres applications de la BNF, donc soit Gallica, soit les catalogues. Et ça, qu'est-ce que ça signifie ? C'est qu'on a aussi atteint notre objectif de valoriser nos autres ressources et de faire de Data un hub qui va redistribuer l'audience vers ces applications. D'un point de vue métier, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, beaucoup de gens, puisqu'autour des communautés du catalogage, beaucoup de gens doutent et s'inquiètent sur l'avenir de leur métier, ont vu tout d'un coup quelque chose d'extrêmement positif, c'est-à-dire qu'enfin, on s'intéressait aux données bibliographiques, aux données des catalogues, et qu'elles sont beaucoup plus visibles. Donc, leur travail sert à plus de monde. Donc ça, c'est positif. Et par ailleurs, cette fameuse fabrique qui est derrière, dans le back-office de Data, donc ce travail de conversion des données, eh bien, en fait, il est reversé, il va être reversé vers les applications sources. Et c'est en fait une manière d'efferbériser le catalogue source avec d'abord une logique de diffusion. Voilà, je ne vais pas vous parler beaucoup plus longtemps. Vous connaissez ce schéma, qui est le schéma du web sémantique. On a arrêté de le maintenir à partir de fin 2011 parce que ça posait des problèmes un petit peu politiques. Et il y avait tellement d'acteurs qui étaient rentrés dans le jeu du web sémantique que c'était plus maintenable. Mais en tout cas, à cette époque, la France et notamment la BNF étaient déjà assez pionnières puisque dans cette zone, vous voyez Data qui s'approche du centre, mais aussi Rameau et VIAF, le fichier d'autorité virtuelle piloté par OCLC avec pas moins de 40 bibliothèques partenaires. Nous sommes un très gros contributeur de VIAF et ça joue un rôle très très important puisque depuis ce noyau-là, eh bien, les autorités françaises sont très largement disséminées dans d'autres applications et d'autres catalogues dans le monde. Voilà, pour conclure et avant de passer la parole à Marianne pour vous montrer qu'est-ce que vous, ça peut vous faire quelque chose comme ça depuis une bibliothèque publique à travers ce projet. Je voulais partager avec vous un peu les discussions qu'on a aujourd'hui, notamment au sein du groupe RDA en France. Tout ça, c'est bien joli, mais à quel moment je change de système ? Comment mes catalogueurs ou en tant que catalogueur, mon travail va évoluer ? Est-ce qu'il faut réorganiser le travail en termes de coopération ? De quelle manière ? Aujourd'hui, pour entrer dans ces questions, on a engagé une campagne nationale de sensibilisation qui est pilotée par le CNFPT, qui fait un boulot, enfin on a appelé ça le Tour de France autour du sujet, c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. Le premier objectif, c'est de discuter avec des responsables d'établissement, parce que c'est eux qui vont être concrètement amenés à faire évoluer les choses et à prendre des décisions de moyens ou d'organisation qui vont impacter tout un réseau. Le problème, c'est que le changement, c'est pas maintenant. C'est maintenant et en même temps, ce n'est pas tout de suite. C'est qu'il n'y a pas au niveau national encore de trajectoire assez claire avec un calendrier pour dire à quel moment on bascule d'un format de production à un autre du fait du contexte international et des incertitudes qui pèsent. Pour la BNF, ce qui est certain, c'est que nous allons continuer à avancer dans ce processus de transformation et diffusion de nos données bibliographiques. Avec, et ça c'est pour rassurer tout le monde, l'engagement de maintenir sur la durée une continuité de service avec différentes manières de servir nos données. Puisqu'aujourd'hui, si je récapitule, vous pouvez, comme certains d'entre vous ont certainement l'habitude, récupérer nos produits et services bibliographiques au format MARC, par Z3950 ou par FTP. Vous pouvez aussi, et notamment pour les métadonnées qui concernent les documents qui sont numérisés dans Gallica, moissonner nos entrepôts AI qui sont en Dublin Core. Et donc la nouveauté que j'ai oublié de montrer, mais que Marianne remontrera, c'est que vous pouvez, pour toutes les données que je vous ai présentées dans Data, les télécharger sous forme de dump RDF. Voilà. On a refait complètement à jour la page du site BNF qui présente en fait les différentes manières de réutiliser nos données, donc vous pourrez vous y référer. Pour passer la parole à Marianne, je voudrais donc du coup introduire le projet, l'expérimentation OpenCat. C'est un appel à projet innovant du ministère de la Culture qui nous a donné l'idée de tenter quelque chose. Donc on a remporté cet appel avec un budget qui n'était pas colossal, donc qui permettait de faire une preuve de concept, et c'est ce qu'on a fait. Et ce que je voulais personnellement, c'était faire une mise en situation pour réfléchir en se décentrant, en ne pensant pas trop BNF, c'est-à-dire en arrêtant de se dire « et si j'étais une bibliothèque publique ?» mais en demandant leur avis à une ou deux bibliothèques publiques et à se mettre en situation du changement, c'est-à-dire de penser qu'est-ce que ça pourrait être une autre organisation des catalogues dans ce contexte du web de données. L'idée aussi, c'était de faire quelque chose de concret, qu'on puisse montrer, dont on puisse parler, que les gens puissent se représenter le service qui est derrière et pas seulement la structure des données. Et donc le scénario que va dérouler Marianne, c'est si une petite bibliothèque publique décidait de se lier aux données de la BNF plutôt que de les récupérer au format MARC, qu'est-ce que ça pourrait donner ? Voilà.
Bonjour. Donc effectivement, si je reviens à la diapo précédente, beaucoup de bibliothèques aujourd'hui réutilisent les données de la BNF par ce qu'on appelle les services bibliographiques qui permettent la récupération en format classique de bibliothèque, format MARC, des notices de la Bibliothèque nationale, que ce soit des notices bibliographiques ou d'autorité. Et nous avons mené l'an dernier une grande enquête pour connaître un peu mieux ces réutilisateurs et leurs besoins, qui a été pilotée par Cécile Twitou, que je remercie puisqu'elle est dans la salle. Et il ressort de cette enquête en fait que sur les 737 répondants, la moitié déclare qu'ils importent dans leur système plus des trois quarts des nouvelles notices entrées chaque année dans leur SIGB. Mais que parallèlement, un tiers d'entre eux d'entre les plus gros réutilisateurs en plus font des modifications sur ces notices. Alors qui sont des modifications de différents types, mais notamment des ajouts qui peuvent concerner des indications de genre des œuvres, des catégories de type de public, de l'indexation pour la fiction qui n'est pas indexée à la Bibliothèque nationale, ou bien, par exemple, pour les CD-ROM, des dépouillements de titres musicaux. Quand on leur demande pourquoi ils récupèrent ces notices, en fait, il est très clair que la première réponse est que ça leur fait gagner du temps de catalogage, en fait. Et l'idée est bien de ne pas ressaisir ce qui a déjà été catalogué par d'autres. Néanmoins, ils ont besoin de faire ces ajouts. Et l'idée, c'est que aucun réservoir aujourd'hui bibliographique ne répond à la totalité de leurs besoins, puisqu'il existe les services bibliographiques de la BNF, mais aussi d'autres réservoirs à disposition des bibliothèques. La question à ce moment-là est de se dire pourquoi ? Est-ce que c'est normal ? A priori, oui, parce que d'une part, les besoins bibliographiques des bibliothèques dépendent énormément du type de bibliothèque, du type d'établissement, qui varie beaucoup, notamment en lecture publique, entre les CDI, les bibliothèques municipales, les bibliothèques départementales, qui n'ont pas toutes exactement le même public, mais aussi parce qu'on constate que les bibliothèques ont des besoins qui ne sont pas de nature uniquement bibliographique, et qu'ils cherchent de plus en plus à enrichir leur catalogue. La moitié des répondants demandent à pouvoir récupérer des résumés, un tiers demande à pouvoir récupérer des vignettes de couverture, par exemple. D'autres demandent à pouvoir récupérer des extraits vidéo ou bien pouvoir avoir accès à des documents numériques ou numérisés, entièrement consultables ou bien des documents sous droit partiellement feuilletables. Il se trouve qu'aujourd'hui, une grande partie de ces informations sont en réalité disponibles, en partie sur le web. Et l'idée n'est donc pas de fédérer toutes ces informations, toutes ces ressources, tous ces contenus nécessairement dans un catalogue unique, mais d'utiliser les nouvelles technologies qui sont mises à disposition désormais, les technologies du web sémantique qui n'existaient pas auparavant, pour lier ces données provenant de différents réservoirs présents à différents endroits sur le web et les afficher finalement à la demande sur ses propres interfaces de visualisation pour répondre à sa propre politique documentaire, comme finalement l'a fait la BNF avec son site databnf.fr qui correspond à sa politique documentaire en fonction de ses collections. Donc, l'objet de l'expérimentation OpenCat, c'est ça. Comme le disait Gilles Dacilien, c'est comment une bibliothèque municipale, ici la bibliothèque municipale de Fresnes, peut-elle bénéficier des enrichissements déjà réalisés, en l'occurrence par la Bibliothèque nationale, en récupérant du coup les données. Je vais sortir pour montrer. On peut récupérer des notices bibliographiques de la BNF sous différents formats, comme l'a montré Gildas. Et ce qu'il faut savoir, si je prends au hasard Théophile Gauthier, vous pouvez récupérer n'importe quelle page de Data BNF sous format RDF, ici, par ce qu'on appelle des dumps RDF, qui est une nouvelle façon de structurer les informations. L'expérimentation 24, c'est donc ça. Comment, sans changer son système, sans changer son système informatique, son SIGB, sans changer le format de gestion de ses propres notices dans son propre système, peut-on, grâce aux données en RDF de la BNF, proposer finalement d'autres services, d'autres ressources, d'autres informations à son lecteur, son internaute, dans sa propre interface de bibliothèque. Pour le dire par un schéma, on a donc un cœur de noyau qui provient de Data BNF. On a un catalogue d'une bibliothèque de lecture publique. Du catalogue de la BNF, on peut récupérer des informations d'auteur, des informations bibliographiques, structurées par le modèle FRBR qui a été présenté tout à l'heure, qui permet une meilleure navigation en regroupant des éditions par œuvre. Et puis, le catalogue de la bibliothèque publique peut apporter ses données locales, bien sûr, code disponibilité, mais également son indexation propre, si elle en a une, c'est-à-dire d'autres informations bibliographiques. Tout cela donne un cœur, un noyau, qui est ici OpenCat, basé sur des briques logicielles libres de QubicWeb. Et autour, grâce au pivot, ces données se parlent à partir d'identifiants communs. Gilda Silien évoquait l'importance des identifiants sur le web de données. Ça peut être un ISBN, par exemple, qui est un identifiant commun à tous les réservoirs bibliographiques. Ça peut aussi être un identifiant, ici, un ARC, c'est-à-dire les identifiants pérennes utilisés par la Bibliothèque nationale. Et grâce à ces identifiants pérennes, dont la Bibliothèque nationale garantit la pérennité d'accès, vous pouvez lier ce cœur de données, OpenCat, à d'autres éléments présents, disponibles sur le web. Des compléments bibliographiques, d'une part, ici, les avis et notices critiques du Centre national de la joie par les livres, mais également des informations non bibliographiques que j'appellerais des informations contextuelles, ici des biographies qui peuvent provenir de Wikipédia, des vignettes de portraits, des vignettes de couverture qui peuvent provenir de différents réservoirs de données, et puis dans un troisième temps, des contenus, les contenus eux-mêmes qui peuvent provenir de sources BNF, en l'occurrence ici des documents numérisés qui viennent de Gallica, mais d'autres contenus de la BNF, des expositions virtuelles par exemple, ou des contenus présents ailleurs sur le web, pas nécessairement dans une bibliothèque. Là, dans le cadre du prototype, on a fait un lien avec des conférences en ligne de Canalu, qui est la web TV de l'enseignement supérieur. Donc, à partir de ce schéma, je vais vous faire une petite démonstration avec les précautions d'usage de toute démonstration, sachant que l'objet du projet de recherche n'était pas le graphisme, donc je vous demanderai de ne pas vous concentrer sur la couleur et l'intitulé des onglets, mais vraiment sur les fonctionnalités. Donc on a OpenCat, une page d'accueil avec un encart de recherche simple, celui auquel sont habitués aujourd'hui les utilisateurs du web, des propositions aléatoires d'œuvres numérisées dans Gallica, ou plutôt de leur notice qui va permettre de faire un lien avec les collections de la bibliothèque. Et puis, une forme d'éditorialisation, ici automatique, qui est, par exemple, pour des lecteurs qui n'auraient pas d'idées préconçues, qui viennent sur ce catalogue-là, qui cherchent un point d'entrée. Ici, on a choisi d'afficher des auteurs ayant gagné un prix littéraire français, que ce soit le Goncourt ou le Renaudot, qui peut être un point d'entrée. Pour un lecteur qui a déjà une idée préconçue de ce qu'il cherche, disons, imaginons, que nous nous intéressions à Perrault, non pas l'architecte de la BNF, mais l'auteur de contes pour enfants. Charles Perrault, donc je suis arrivée sur... Je vais peut-être revenir en arrière. Donc, on a un encart de recherche classique, simple, ce qui veut dire qu'on permet d'affiner les recherches avec des facettes, comme c'est désormais assez courant. Et je tombe sur une liste de résultats dans laquelle je choisis Charles Perrault. J'arrive donc ici, de même qu'on l'a vu pour Data BNF, sur une page d'auteur. Dans cette page d'auteur, je vais avoir des informations qui proviennent de la notice d'autorité de la Bibliothèque nationale. C'est difficile sans souris. Ici, un portrait qui provient par exemple de Gallica. Et ici, des compléments biographiques. J'évoquais les éléments contextuels qui ici provient de l'Académie française puisque c'est un auteur qui était un académicien. Et je peux même sortir, aller voir sur le site de l'Académie où je pourrais consulter les discours et travaux académiques de Charles Perrault. Ça, c'est pour le bloc principal du haut. Ensuite, j'ai une frise chronologique qui va me présenter ses différentes œuvres avec des couvertures. Et puis, je vais avoir la liste des œuvres qui sont présentes à la bibliothèque. Ici, la bibliothèque. Donc, on est à Fresnes. Et ici, nous avons bien des œuvres. C'est-à-dire que contrairement à un catalogue classique ou même les résultats d'un moteur de recherche où tous les résultats sont affichés finalement en liste, tout étant au même niveau. Ici, on bénéficie du modèle FRBR, qui est donc le regroupement des différentes éditions, manifestations autour d'une même œuvre, qui va permettre de naviguer plus facilement avec ici les informations de disponibilité des différentes éditions présentes à Fresnes. Et en plus donc de ce lien aux collections papier, je vais avoir proposé automatiquement, par des alignements, d'autres ressources. Par exemple, une ressource ici, une exposition virtuelle de la Bibliothèque nationale, sur laquelle je vais aller pouvoir naviguer, mais également une conférence consultable en ligne. Je vous parlais de Canal U. Qui est donc normalement, si tout fonctionne bien, Michel Tournier, nous parlons de Charles Perrault. Ça, c'était pour une page auteur dans laquelle la bibliothèque nationale, la bibliothèque municipale de Fresnes n'a eu absolument pas à intervenir. C'est-à-dire que toutes ces données proviennent du cœur de données, des données qui proviennent de la BNF, et par le pivot des identifiants de la BNF, de faire des liens automatiques avec des ressources externes. Pour continuer dans la veine enfantine, disons que je vais chercher... Non, ça va pas... Ça va être plus marrant avec Pinocchio qu'avec Pinochet. Donc j'arrive sur une page cette fois-ci d'œuvres. Tout à l'heure on avait une page auteur. Et donc de nouveau je trouve des informations qui proviennent de la BNF. Et je trouve un résumé, une couverture. Et ici je vais retrouver des compléments bibliographiques cette fois-ci. Normalement c'est sur le sixième. Donc ouais. Je reviens en arrière. Vous avez donc ici la notice d'œuvre qui explique l'œuvre en général et la totalité des différentes éditions présentes à Fresnes, qui ne sont pas des exemplaires. On est bien d'accord que sous chaque édition, on pourrait aussi avoir plusieurs exemplaires. Et donc ici, vous avez le pictogramme du coup de cœur et puis l'avis critique, la notice critique, rédigée par les collègues du Centre national de la littérature pour la jeunesse, qu'on a pu appeler ici. De la même façon, Fresnes n'a pas eu à ajouter d'informations supplémentaires ici. L'idée est donc bien qu'on offre des informations contextuelles autour des informations déjà présentes dans le catalogue classique de la bibliothèque de Fresnes. Imaginons qu'un collégien, une collégienne, doit faire un exposé sur un ouvrage quelconque. Lui, il aurait voulu Harry Potter, parce que ça marche aussi pour Harry Potter, je vous laisserai regarder. Mais son professeur lui a plutôt donné un ouvrage classique dont il ne connaît strictement rien. Et il se connecte dans la future application mobile de sa bibliothèque municipale préférée et il flash l'ISBN qu'il a trouvé sur l'ouvrage que son professeur lui a prêté. Je répète, les identifiants, c'est important. Je crois que Gilda Silan l'a dit tout à l'heure. C'est un ISBN qui, avant, n'était connu que de la communauté des professionnels du livre et qui, aujourd'hui, par les sites de vente en ligne, est un identifiant de plus en plus connu. Et je tombe, du coup, enfin, mon collégien, tombe sur la page de l'œuvre en question, La princesse de Montpensier. Il va pouvoir voir les différentes éditions disponibles à Fresnes. Il pourra sûrement aller consulter l'édition Princeps présente à la Bibliothèque nationale, même si ce ne sera pas la plus facile à lire, sans doute. Et puis, il pourra remonter sur des informations contextuelles, revenir à la page auteur, cette fois-ci, et constater, j'ai dû ouvrir dans un autre onglet, avoir des informations sur cet auteur et constater que ce n'est pas une illustre inconnue, puisque c'est aussi l'auteur de la désormais célèbre Princesse de Clèves, sur laquelle il pourra même éventuellement aller consulter d'autres ressources. Ici, une conférence en ligne. Un exemple de navigation, donc, imaginable à l'avenir. Je reviens sur cette page, si vous vous rappelez, l'ISBN que j'ai flashé dans mon appli mobile, qui n'existe pas encore, se termine par un 4, et vous constaterez que les deux éditions présentes à Fresnes ont des ISBN qui ne se terminent pas par un 4, puisque se terminent par un 3 et un 1. Or, le système a été capable de remonter la bonne œuvre. Et là, l'idée, c'est qu'il existe une base bibliographique nationale, qui s'appelle la Bibliographie nationale française, qui est issue du dépôt légal, et grâce au modèle FRBR, on est aujourd'hui capable de rattacher, finalement, n'importe quel ISBN à une même œuvre, et d'appeler à partir de cette œuvre les éditions réellement présentes à Fresnes. Donc ce système-là manifeste l'intérêt de s'appuyer sur vraiment une base complète, au-delà des collections de la bibliothèque, avec l'idée qu'au-delà de ce qu'on possède chez nous, on est capable d'appeler des informations complémentaires qui vont répondre, au-delà de la demande du lecteur, à des informations au-delà de ce qui se trouve réellement présent à la bibliothèque. Donc, on trouve ça intéressant, ce prototype. Donc, on a quand même fait une petite étude d'usage auprès des utilisateurs, les usagers de la bibliothèque municipale de Fresnes en cours de projet. Et ce qui est intéressant, c'est que les points forts qui nous ont fait remonter, bon, à part la navigation facilitée, notamment par le regroupement par œuvre, c'est les informations biographiques ou bien la possibilité de sortir sur des ressources externes et finalement ce qui fait la valeur encyclopédique de ce site. L'idée est bien que pour les utilisateurs, le catalogue de la bibliothèque ne soit pas un cul-de-sac au cas où finalement la bibliothèque n'est pas capable de répondre à l'information qu'il recherche et puisse appeler et afficher sans que l'utilisateur sorte de cette interface d'autres informations. Alors la suite de ça, on a donc un prototype, si je reviens ici. Voilà, ça c'est le lien au prototype. Si vous tapez dans votre moteur de recherche préféré BNF OpenCAD, vous tomberez sur une page d'explication qui vous donnera le lien au prototype. C'est ce qui correspond à l'appel à projet du ministère de la Culture auquel on a répondu l'an dernier, avec la politique documentaire de la bibliothèque de Fresnes. Le code source, puisque c'est basé sur des briques logicielles libres, CubicWeb, est public, vous pouvez le récupérer. Et on va également publier la totalité des alignements, les alignements vers d'autres jeux de données qui ont été réalisés dans le cadre du projet. Pour que n'importe quelle bibliothèque, en fait, désireuse de permettre cette couche de visualisation au-dessus de son propre système, sans changer son système informatique, puisse le faire. On a décidé d'aller plus loin, et la société Logilab a développé un autre prototype qu'on appelle un démonstrateur, dans lequel d'autres bibliothèques que Fresnes puissent charger leurs propres données pour aller voir ce qui se passe quand elles sont, d'une certaine façon, localisées sur la base, le cœur qui est celui de DataBNF, et renvoyées vers d'autres jeux de données sur le web. Aujourd'hui, les jeux de données qu'on a utilisés, si je reviens à mon schéma, sont des jeux disponibles aujourd'hui. On dit des jeux de données qui sont publiés librement sur le web. Ça peut être DBpedia, Open Library pour des couvertures, Freebase pour des informations, par exemple sur des informations sur les personnages de romans. Mais on peut imaginer que demain, on pourrait proposer, si d'autres institutions culturelles sont intéressées, de faire des liens à d'autres types d'informations. Alors, des ressources de la BNF, par exemple les dossiers pédagogiques qui s'appellent les classes BNF à destination des enseignants. On pourrait imaginer qu'en plus des portraits de Gallica, on puisse afficher des illustrations qui reviendraient des bases de la Réunion des musées nationaux. On pourrait imaginer de faire un lien au signet de l'enseignement supérieur pour afficher l'information de sites web sélectionnés par des professionnels. On pourrait imaginer de faire un lien aux vidéos des conférences qu'on appelle ça les cours du Collège de France, de même que là on a Canalu, ou bien pour l'histoire de l'art par exemple, appeler des ressources provenant du Centre Pompidou virtuel. Créer en bref un réseau de données culturelles liées entre elles et mises à disposition des bibliothèques. Mais l'idée c'est pas forcément qu'il y ait uniquement des données provenant de grandes institutions, puisque l'idée c'est vraiment que chaque bibliothèque qui fait des enrichissements, soit capable de les exprimer dans son système localement chez lui, mais aussi de les républier pour qu'elles soient mises à disposition de la communauté. Dans le prototype réalisé pour Fresnes, on a une fonctionnalité de suggestion automatique quand vous êtes sur une page d'œuvre, par exemple, qui va vous dire eh bien, vous pouvez aussi consulter telle autre œuvre et qui est basée de façon purement automatique sur les 37 genres spécifiques de la bibliothèque, type roman noir, roman KPDP, que Fresnes a dont Fresnes s'est servi en fait pour indexer une partie de ses fonds de fiction qui pourrait intéresser d'autres, de même que les informations provenant du Centre national de la joie par les livres, enfin de la littérature pour la jeunesse, peuvent intéresser toute personne ayant un fonds jeunesse. Et l'idée est vraiment ça, c'est que chaque bibliothèque, et notamment les bibliothèques territoriales, sont assises sur des fonds locaux que seules elles connaissent et que seules elles peuvent valoriser à destination de la communauté entière, puissent republier ces données. Donc je vous montre juste rapidement. Si je retourne ici, le deuxième prototype qu'on a fait, donc qui ressemble très largement, hein, c'est exactement le même cœur, mais qui propose d'autres fonctionnalités, ici, qu'on puisse créer des bibliothèques, et étant sur une bibliothèque, qu'on puisse, alors ici par exemple, la bibliothèque départementale de Saône-et-Loire, a proposé, qui est présente dans la salle, a proposé de nous fournir des informations provenant de leur propre catalogue, qui soient des informations, c'était un fichier avec ISBN, cote, localisation, et puis je ne sais plus quelle information locale, qu'on peut charger de façon à visualiser dans ce prototype. Voilà. Alors là, on a un système, importer des données, donc par ce système d'export de leur catalogue par un fichier tabulé, bêtement. Mais ça pourrait être aussi bien pour une bibliothèque non informatisée, ça pourrait être flasher des ISBN présents sur des livres et puis finalement se constituer sa couche de visualisation sans même avoir de système informatisé. Et puis, de cette façon, ils peuvent aller sur leur liste d'exemplaires. L'idée est vraiment de pouvoir visualiser ces données. Nous, ce qui nous intéresse, en fait, en proposant ça, c'est qu'on souhaite développer en fait la politique de diffusion de nos données par les DOM de data BNF. Et pour ce faire, plus on aura de réutilisateurs qui viendront tester en faire leurs propres données sur un prototype de ce genre, mieux on pourra en fait réfléchir à comment répondre aux besoins des usagers, des bibliothèques, finalement en particulier de la lecture publique. Je finis juste, donc ça c'est... le démonstrateur, bon, il est suridentifiant, donc pour l'instant, vous ne pouvez pas y accéder. Mais si vous êtes intéressé, le contact le plus simple à retenir, c'est databnf.fr. Si vous êtes intéressé à charger des données et qu'on vous donne un accès pour tester de façon expérimentale vos jeux de données sur cette interface. Et puis, en attendant, vous pouvez nous poser des questions.
Un petit peu de temps pour échanger avec vous si vous avez des questions, des commentaires. Il y a un micro en régie derrière.
Bonjour. Oui, moi je suis donc de la bibliothèque départementale de Saône-et-Loire et on s'est lancé dans un partenariat avec la BNF parce qu'on y a vu pas mal d'intérêt. On a vu l'intérêt effectivement c'était de proposer un catalogue éphébérisé, un catalogue enrichi, comme on l'a vu, avec un catalogue qui est dans le web, donc qui pourrait bénéficier complètement du web sémantique. Et on a vu d'autres intérêts. On a vu en ce moment, ce qu'on chercherait à expérimenter avec la BNF, c'est un catalogue collectif. À partir de données, il faut dire que dans le département de Saône-et-Loire, on est très très engagé dans tout ce qui est open data. On est, je crois, le premier département à avoir mis en ligne énormément de jeux de données, et notamment des jeux de données de bibliothèques, donc la bibliothèque départementale, mais aussi d'autres bibliothèques du réseau de la bibliothèque départementale. Donc là, l'expérimentation qu'on souhaiterait mener avec la BNF, c'est celle d'un catalogue collectif qui s'appuierait sur des fichiers déposés par les bibliothèques. Donc ça, c'est quelque chose qui est à l'étude. Là, on a récupéré trois catalogues de bibliothèques, plus le nôtre, et on devrait proposer des choses assez rapidement. Et le deuxième aspect qui nous semble important, c'est celui que Marianne a soulevé, c'était celui de la communication des données qui sont plus localisées et qu'on ne va pas retrouver forcément dans les catalogues de la BNF, qu'on ne va pas forcément retrouver, c'est la longue traîne. Et là, je crois qu'il y a vraiment quelque chose à construire. En plus, ça va impliquer nos bibliothèques, on ne va plus être uniquement des consommateurs de données, on va être aussi des constructeurs de données. Je crois que c'était important pour nous, donc à travers ce partenariat, d'aller vers tout cela.
Oui, juste pour rebondir là-dessus, en fait, l'intérêt aussi, c'est que dans le cas d'un réseau, hein, comme c'est le cas de la bibliothèque départementale de Saône-et-Loire, on a plusieurs dizaines de bibliothèques qui sont informatisées sous des systèmes différents, avec du coup, sans doute tous, un format Unimark, mais un peu à la sauce de chaque bibliothèque, et qu'utiliser le cœur de données de la Bibliothèque nationale par data, c'est éviter aussi de faire des migrations en série de 150 bibliothèques pour essayer de reconstituer un réservoir très hétérogène avec des pertes d'informations. L'autre partie intéressante, c'était aussi que je crois que vous aviez un projet avec de partenariat avec les archives. Gilda Silien évoquait effectivement le fait que dans Data BNF, il y a non pas le catalogue de la Bibliothèque nationale, mais les catalogues de la Bibliothèque nationale, puisqu'il y en a deux. Un qui correspond au format bibliographique et un autre qui correspond au format archivistique, le AD. Donc on peut très bien imaginer effectivement d'essayer à partir finalement des cœurs de données RDF, de faire se parler des données qui sont de nature différente à l'origine.
Bonjour, Sylvain Mercier de la BPI. J'aurais une question sur ce projet par rapport aux licences pour les contenus enrichis. Quelles sont les conditions en fait, d'affichage ? Parce que j'imagine que s'il y a réutilisation d'un certain nombre de contenus enrichis, il faut mentionner évidemment la source. Et donc, est-ce que ça a été évidemment, j'imagine, pris en compte ? Ça, c'est un élément. Et puis l'autre élément, on réfléchit à la BPI, nous, à une manière de travailler en coopération avec un certain nombre de bibliothèques publiques de manière à proposer des contenus enrichis qui, du coup, pourraient tout à fait se connecter à OpenCat dans le cadre du projet Web Magazine qui est en cours de développement à la BPI.
Alors, sur la partie enrichissement, en fait, pour l'instant, on a montré dans le prototype que des choses sur lesquelles on avait effectivement des droits. Donc, par exemple, l'Académie française n'a pas souhaité qu'on affiche la totalité. Donc, on affiche un début et puis après, on permet de renvoyer vers leur site. Si on prenait les signets, ce serait plus simple de prendre les signets de la BNF, mais je pense que ce serait intéressant justement de tester avec d'autres jeux de données. Là, on ne l'a pas intégré, le CERIMES, mais je pense qu'il n'y aurait pas de problème à l'intégrer. Pour les autres données d'institutions culturelles dont je parlais, il est évident que ça, c'est un partenariat à créer avec chacune. L'idée étant bien, pour nous, qu'il n'y ait jamais aucun import de données, c'est-à-dire que ce soit uniquement de l'affichage et que quand on clique sur l'image, par exemple, on retourne nécessairement sur la source. Je crois que c'est vraiment ça qui est très important, c'est de se dire qu'on n'importe plus et on ne fédère plus aussi parce que finalement, se lier les uns aux autres et permettre d'enrichir une navigation, c'est aussi permettre de faire connaître d'autres sources. Et qu'il faut absolument que l'utilisateur, découvrant une information qui ne provient pas de sa bibliothèque, retourne finalement, s'il veut creuser, sur le site d'origine. Et ça, c'est vraiment très important pour nous. Je pense que c'est aussi pour ça que DataBNF est publié, enfin, et DumpBNF, les droits sont aussi de la citation de source, de même que quand vous avez des documents de Gallica dans une bibliothèque extérieure, il est important qu'on conserve bien cet arc qui permette de rebondir toujours sur la bibliothèque finale qui est bien celle de la Bibliothèque nationale. Pour la partie que vous indiquez là sur les participations des professionnels, nous c'est un peu la même chose, c'est-à-dire on a des institutions culturelles, on a des données locales provenant de collectivités territoriales qui connaissent leurs fonds, qui peuvent les faire connaître. Tout type d'enrichissement qui proviennent finalement de sources de référence, c'était bien ça l'idée. Efren était très attentif à ça dans l'élaboration du projet, qu'il voulait avoir un regard sur le type de données qu'on importait. Sur le web de données aujourd'hui, il y a des données de tout type, il y a des gens qui publient des choses. Ce n'est pas parce qu'elles sont disponibles qu'on va nécessairement décider de s'y lier. C'est-à-dire, c'est très important de se dire, de même qu'on n'acquiert pas n'importe quel livre comme ça, qu'on a une politique documentaire, et bien de même pour les enrichissements, on va choisir d'afficher et de renvoyer vers ce qui nous paraît nous pertinent par rapport à nos collections, notre public. Et donc là, typiquement, il est évident que si on a un système de collaboration de professionnels qui connaissent leurs fonds, qui ont des choses à dire sur ce qui est chez eux et qui peut par définition ou par nature intéresser les autres, ça nous intéresserait énormément de pouvoir faire un lien dans un outil comme celui-ci.
Je complète en disant qu'en fait, ce qui est intéressant sur le point de vue un peu prospectif, sur la manière de travailler ensemble, c'est que finalement, c'est un écosystème dans lequel chacun met à disposition des ressources et l'utilisateur professionnel se sert et fait quelque part un patchwork qui correspond à son public, à sa politique finalement. Et Marianne reparlait de politique documentaire. Alors imaginons qu'on rentre dans une logique où la politique documentaire, c'est une politique finalement de choix de type de données. On peut imaginer l'évolution du travail du catalogueur ou finalement du médiateur de la bibliothèque qui va être de dire quels sont les jeux de données qui sont pertinents par rapport au public que je sers et par rapport à l'offre, au service, à la politique que je veux mettre en avant en tant qu'établissement. Et quelque part, il y a quelque part des réservoirs. Et on peut imaginer que les plus grosses institutions qui ont les moyens de produire de la donnée vont dans le sens de cette libération et diffusion de leurs données. Et des utilisateurs dont la valeur ajoutée va être d'agencer ces jeux de données d'une certaine manière et d'y ajouter ce qu'on va appeler des données locales. Cette fois, non plus au sens de la donnée locale. Si aussi la donnée locale au sens des exemplaires qui sont chez lui. Mais des contenus qui va lui-même produire parce qu'il aura dégagé aussi du temps et de l'énergie par rapport à tout ce qui est fait par d'autres. Donc c'est ça, c'est repenser le travail autour du catalogue comme une agrégation de contenu au choix, comme dans un restaurant chinois, quoi. Je choisis mon menu entre 1, 2, 3, 4, 5 ou autre, et je recompose ma ressource adaptée à ma communauté. Et c'est vrai que la question juridique est importante, puisque pour que ça fonctionne, éviter d'avoir à passer par des multitudes de conventions, on voit bien que ça ne tiendrait pas la route, il faut que les données soient aussi ouvertes juridiquement.
Allô ? Oui, bonjour. Pierre De Witt de la BDP 86 de la Vienne. Dans le schéma que vous avez présenté, si j'ai bien compris, donc en fait, l'OpenCat permet de regrouper différentes sources d'informations à partir des données bibliographiques donc de la BNF, ce que vous appelez le databnf.fr, voilà, c'était ce schéma-là, et des données du catalogue de la bibliothèque publique. Quid des documents pour lesquels la BNF n'a pas la notice bibliographique ? Puisque là, vous parlez de données locales, alors vous l'avez peut-être précisé, mais voilà, c'était pas très clair pour moi.
Ouais. Alors, là, dans le cadre de ce, prototype, on est parti de... C'est même moins que la totalité du catalogue de Fresnes, puisqu'aujourd'hui, le but de ce prototype, c'était vraiment de ne rien tester d'autre que le fonctionnement déjà des notices de la BNF en tant que pivot. Donc déjà, ce qu'il y a dans ce prototype, qui est figé, hein, qui est vraiment dans le cadre de l'appel à projet, c'est le croisement des collections de Fresnes qui, même pas, sont dans le catalogue de la Bibliothèque nationale, mais sont aujourd'hui dans le corpus de Data BNF, qui représente aujourd'hui 20% du catalogue de la BNF, qui grossit au fur et à mesure, et Gilles Dacilien a bien expliqué. On ne le fait pas grossir comme ça, pas parce que ce n'est pas possible pour des raisons techniques, mais parce que la BNF a décidé, contrairement à d'autres bibliothèques nationales, d'exposer en RDF ces données après les avoir FRBérisées, c'est-à-dire après leur avoir finalement donné une valeur ajoutée, qui est le regroupement par œuvre. Donc ça suppose qu'on procède par corpus pour pouvoir avoir des données propres à l'arrivée. Donc aujourd'hui, dans ce prototype, on a l'équivalent de 4000 notices bibliographiques qui correspondent à 3000 œuvres. Voilà, ça c'est pour le prototype figé. Pour la suite, à échéance 1 ou 2 ans, quand on aura tout le catalogue de la BNF dans Data, se posera effectivement la question de ces notices-là qu'on n'aura pas et qu'on n'aura jamais. Donc là, il est évident que de même qu'on peut exprimer les notices, donc, en l'occurrence c'est de l'intermarque à la BNF en RDF, eh bien on exprimera, la bibliothèque locale exprimera en RDF les notices qui viennent de ces données en Unimark, par exemple, ou n'importe quoi d'autre, et ça fera ce corps de données-là. Mais l'important pour nous, c'est qu'une fois qu'il sera dans le même réservoir, puisque de toute façon, là, l'intérêt d'avoir Cubic Web, c'est que le réservoir OpenCat, il est bien présent quelque part ailleurs qu'à la Bibliothèque nationale. C'est-à-dire qu'on n'interroge pas en direct, parce qu'aujourd'hui, les systèmes ne sont pas capables de... Enfin, on ne peut pas imaginer 30 000 bibliothèques interrogeant en direct Data BNF, puisque c'est contrairement à des requêtes d'utilisateurs... de lecteurs de vrais gens qui le font un à un. Là, c'est des requêtes de bibliothèques entières. Donc, c'est une base dupliquée. Et du coup, dans cette base-là, rien n'empêche d'exprimer les collections locales. L'important étant pour nous qu'une fois qu'on s'est donné la peine de les exprimer en RDF, eh ben, on les rediffuse aussi, de même que le cœur de données de la BNF Data est rediffusé, que ce que la bibliothèque locale aura rajouté pour avoir la complétude de ses fonds puisse être exprimé. Alors, si elle le veut bien, mais disons que pour moi, c'est un cercle vertueux, donc ça va forcément dans ce sens, pour que d'autres, éventuellement, puissent aller le chercher et l'identifier aussi. Et du coup, l'intérêt pour nous, c'est de poursuivre au-delà du seul prototype de Fresnes, puisque là, ce qui était prévu dans l'appel à projet s'est arrêté, mais c'est effectivement en continuant à tester avec d'autres bibliothèques qu'on va voir comment est-ce qu'on exprime ces données des autres et créer des bases, sachant que je disais que c'est une base qui n'est pas à la BNF, mais on peut très bien imaginer que ce soit une base qui ne soit pas dans une seule bibliothèque non plus. Là, dans le cas d'un réseau de bibliothèques publiques, ça pourrait être le même cœur pour 150 ou 200 bibliothèques, mais même au-delà d'une structure administrative, on pourrait imaginer que X bibliothèques, je ne sais pas, municipales, autour des mêmes fonds, ou je sais, enfin, à voir à eux ce qu'ils veulent construire, ce que chacun veut construire régionalement, puisse créer cet ensemble.
Et que vous avez, en fait, ce serait disséminer en fait ce que vous appelez le data.bnf, là, les informations, pour que ce soit accessible à différentes bibliothèques, et j'imagine avec un système de mise à jour par rapport au travail qui serait effectué ultérieurement à la BNF.
Exactement. Là, aujourd'hui, le gros enjeu pour nous, c'est vraiment la mise à jour des données, puisqu'aujourd'hui, elle est calquée sur en fait, des mises à jour du catalogue général, mais on pourrait imaginer que ce soit plus fréquent, premièrement. Et deuxièmement, oui, qu'autour de, qu'il puisse y avoir différentes réplications de la base, en fait, sans problème, et que peut-être qu'on puisse centraliser, je ne sais pas si la BNF souhaitera le faire, ou si ça peut être une communauté de bibliothèques qui souhaite le faire ensemble, un lieu où on centralise tous ces alignements. C'est-à-dire que non seulement les bibliothèques pourront exprimer leurs propres données et dire ben, « Venez, on les a déjà exprimées, récupérez-les », mais aussi si une bibliothèque a découvert un nouveau jeu de données présent sur le web de données parce qu'ils sont spécialisés, je ne sais pas, dans littérature orientale, qu'ils ont trouvé un jeu de données intéressant en Chine, qu'ils ont fait cet alignement automatique, et ben pourquoi pas le publier à un endroit unique. Ce ne sera pas dans le catalogue de la BNF, ça n'a pas vocation à l'être, ça ne sera pas dans le catalogue de toutes les bibliothèques, mais peut-être que d'autres bibliothèques avec des fonds orientaux se diront « Tiens, j'ai repéré ce nouveau bel alignement, je le mets dans ma base, l'automatisation a déjà été faite, j'ai qu'à l'implémenter sans refaire le travail intellectuel de qu'est-ce que je, quels attributs je fais aligner avec quel autre. »
Voilà, donc finalement, c'est une économie où on stocke l'information sur le web, souvent elle y est déjà, et on va la chercher. C'est le catalogue se nourrit de ce qui est déjà publié. Par contre, il y a à créer une communauté de travail autour de, quelque part, référencer ces jeux de données, les enrichir, se les passer, s'alerter. Donc c'est vraiment une nouvelle manière de travailler qu'il faut inventer. On va vous laisser vous reposer avant la prochaine session qui commence dans un quart d'heure. Ce que je voulais quand même vous dire avant de vous remercier pour votre assiduité et votre présence, c'est que ce que vous avez vu, c'est un prototype, on vous l'a dit. Pour nous, c'est une manière d'avancer dans une conversation qu'on veut avoir avec tous les acteurs qui s'intéressent au monde bibliographique et au catalogue au sens large, que ce soit les bibliothèques elles-mêmes, d'autres types de communautés, les éditeurs de logiciels, les producteurs de données. On a voulu avancer en posant un objet, un véhicule de cette conversation. Et on n'a pas de plan très précis, ni de ressources, ni de calendrier arrêté autour de ce projet. C'est pour ouvrir la discussion et le travail autour du web sémantique par quelque chose qui soit un chantier concret et qui ne soit pas simplement une discussion de normalisation. Voilà, c'est surtout le message qu'on voulait vous faire passer aujourd'hui. Merci beaucoup.